Yves Ravet, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous recevoir à distance à la librairie Mola pour votre 17e roman. Vous êtes écrivain d'une œuvre prolifique de textes de théâtre et de romans dits noirs. On reviendra sur ce terme-là d'ailleurs. Et donc c'est pour Adultère, paru aux éditions de Minuit ce début d'année 2021, qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Jean Segers est le propriétaire malheureux d'une station-service qui se trouve en redressement judiciaire. Son seul espoir, c'est pour éviter la faillite, c'est que un certain Xavier Walden, qui est par ailleurs président du tribunal de commerce, le rachète. Mais cet espoir, il est cruellement assombri par les soupçons de Segers. Est-ce que sa femme, Remedios, et Walden entretiendraient pas une liaison ? Et à cette obsession d'adultère se rajoutent d'autres sujets de tourment pour Segers, la nouvelle vie de sa mère Dolores, qui est personnifiée par son amant Salazar, et les réclamations pressantes de son employé et mécanicien Ousmane quant à ses indemnités de licenciement. Au fil du roman, on va retrouver des thématiques qu'on retrouve souvent dans vos romans. Il est question de mensonges, de manipulation, d'incendie volontaire ici, de corps et bien sûr d'adultère. Jean Segers, comme beaucoup de vos personnages principaux, c'est un personnage insaisissable. Il alterne une forme de passivité, d'obsession, de déni, d'amoralité, de maladresse souvent, de violence parfois et de manipulation. Vous semez le trouble chez le lecteur sur l'identité, sur le caractère profond de Segers. Dans un article, il est dit que Segers est un pauvre type poussé à devenir un salaud. Est-ce en ces termes que vous l'avez conçu ?
Moi, pas du tout. C'est-à-dire que merci de ce que vous dites sur le roman, sur la présentation des personnages. Je crois que c'est vraiment important parce que la composition du roman, elle ne se fait pas sans les protagonistes. Voilà. S'il n'y avait pas de chair humaine, il n'y aurait pas de pulsion, pas de sentiment. Ou alors, il faut écrire autre chose. Mais bref, étant donné que lorsque je l'écris, j'ai la considération que je l'habite. C'est-à-dire que je suis entré en lui et que lui, au moment où il agit, n'est pas moi, parce que je suis quelqu'un de différent, c'est évident, mais moi, par contre, je peux devenir lui. Et je n'ai pas d'avis négatif. Et je comprends que dans un contexte social, économique, juridique, donné, on puisse entendre ce personnage comme devenant un véritable salaud, au sens où le salaud, c'est celui qui trahit et qui use de procédés malhonnêtes et non respectueux de la personne humaine. Je crois que c'est le cas pour lui, mais en même temps, moi, mon point de départ, ce serait plutôt de dire à quel instant cet homme-là, et c'est là que le critique a pas tort, peut devenir un salaud. Parce que moi, je l'habite dans cette durée-là, dans ce temps-là, où je commence à observer ses faits et gestes, et puis en même temps que je les observe, je les écris, et en même temps, je m'y implique, et progressivement, il y a une décision qui va être prise de sa part, qui est celle, on va dire, par exemple, de devenir quelqu'un qui est un salaud, devenir éventuellement un assassin. Mais tout ce trajet de moi-même dans le début de l'écriture jusqu'au moment où il va devenir peut-être un assassin ou autre chose, on verra, c'est cette latence-là, cette durée-là qui est extrêmement importante et où il y a la construction du personnage. C'est-à-dire que je ne pense pas que quelqu'un soit délibérément, dès qu'il est né, un salaud. Il s'est passé des choses, il est le produit d'une situation, et je vais dire que le roman est le produit de cette situation. Et c'est le roman qui l'explique, qui le raconte. Alors, ce n'est pas marqué que nous sommes en train de faire une étude de cas, dans une école judiciaire, par exemple, mais en même temps, on est en train de déterminer ou du moins d'observer quelles sont les différentes déterminations qui l'ont conduit à devenir ce qu'il est. Au départ, cet homme, c'est plutôt une considération de quelqu'un que j'ai envie de plaindre, qui a des difficultés, qui va essayer de surmonter ces difficultés. Après tout, il rencontre des difficultés dans son entreprise, il rencontre des difficultés de tous ordres et il a un soupçon sur sa femme. Cet homme ne mérite pas au départ le sort qui est le sien. Et finalement, j'ai touché à quelque chose qui relève du quand même et qui nous conduit droit vers le tragique, j'entendrai. C'est quand je dis que il soupçonne sa femme d'avoir éventuellement une relation qu'on va dire adultère. Et là, je crois que chez lui, tout est en train de basculer. Alors, je n'ai pas d'avis générique sur général comme ça d'actualité, comment font les personnes qui se découvrent trompées par leur conjoint ou leur conjointe. Je ne sais pas. Mais pour lui, pour ce qui est de lui, je vois bien qu'il va choisir la solution du pire. J'en dis peut-être un peu trop, non ?
Non, non, pas du tout.
Non, franchement, oui, vous
mais justement, pour vous, la forme d'amoralité dans laquelle va sombrer Segers, c'est une construction, c'est quelque chose qui va se faire progressivement, dont il n'est finalement pas lui-même responsable.
Alors, nous sommes toujours responsables de nos actes, lui en premier. Et simplement, j'ai le sentiment avec celui-ci, avec Jean Segers, d'une sorte de surdétermination. C'est-à-dire qu'il est conduit par les conditions qui font que. C'est-à-dire qu'il suffirait, par exemple, quand il arrive la première fois, enfin quand il est dans le roman, le voici qui attend au milieu de la nuit sa femme, qui rentre très tard. Et rentrant très tard, elle est accompagnée par un autre homme. Et lui, ça lui ouvre une perspective de jalousie qu'il va enfermer, bien entendu, mais qui va développer quelque chose qui est le fait de devenir, devenir un salaud. Et je veux dire simplement par là que, de toute façon, il faut bien qu'il y ait... Il y a quelqu'un qui est en action. Au départ, je crois que l'action, elle est menée par sa femme, que je n'incrimine en aucun cas, bien entendu, évidemment, mais qui revient très tard, au milieu de la nuit, accompagné par peut-être est-ce son amant, peut-être ne l'est-il pas. En attendant, cet homme-là n'est pas un salaud dès le départ, mais il est conduit par les conditions dans lesquelles il vit. Mais c'est lui-même quand même qui prend la responsabilité de ses actes. Et c'est peut-être à lui de gérer autrement la relation avec cette femme qui est manifestement... Enfin, alors pour ma part en tant qu'auteur, puisque j'ai abordé un tout petit peu l'histoire que je m'investis dans le narrateur, j'ai essayé de m'investir dans Remedios, que je trouve... que j'imagine, mais je ne le dis pas, mais que j'imagine très belle, que j'imagine très séduisante, qu'est-ce que ça veut dire, plutôt très proche des gens, très très proche de lui, et qui ne mérite certainement pas le sort qui est en train de leur être assigné, quoi, bien entendu.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans la construction dans l'écriture d'un personnage amoral, antipathique? Et justement, dans ce procédé de bascule?
Eh bien, c'est tout simplement que je suis intéressé, à titre personnel comme ça, de l'évolution d'une personne. Je pense qu'un individu, et donc ce moment-là, je peux parler des personnages ou des protagonistes de mes romans, sont des gens vraiment intéressants à observer parce que ils ne sont pas les mêmes au début et à la fin. Et entre le début et la fin, où se déroule le texte et où se déroule donc le roman, vous avez une évolution ou une involution, vous avez quelque chose qui fait que chacun se déplace d'un endroit à l'autre de sa place sur l'échiquier de l'existence. Et pour quelles raisons en vient-il ou elle en vient-elle à prendre telle ou telle décision, à devenir ce qu'ils sont? Alors, il y a la responsabilité personnelle, ce que j'entends bien parce que je pense bien que ce Jean Segers, qui est le narrateur central du roman, est quelqu'un de... je ne doute pas qu'il soit très intelligent et qu'il ait aussi des capacités personnelles. Mais comment va-t-il, vous parlez de l'effet de bascule, comment va-t-il changer une situation au point de se mettre lui-même en danger, tout en mettant d'ailleurs les autres en danger? Je touche à ce moment-là, je sais, à une dimension qui est celle de la morale. Mais ces personnes que je vais habiter n'ont pas de morale. Enfin, du moins, lui, certainement, il n'a aucune morale. Il ne se pose à aucun moment le problème de ce que signifie, par rapport à la destinée, par rapport à la durée de l'existence, un meurtre. C'est quelque chose de trop... dont il est éloigné. Simplement, si c'est ce procédé qui peut lui permettre de rétablir son équilibre, alors là, il y a un endroit où je touche juste, c'est que c'est un malade mental. C'est aussi quelqu'un qui, je ne sais pas s'il est schizophrène, je ne sais pas s'il est paranoïaque, mais ce que je sais, ce que je sais par contre, c'est que c'est quand même, moi je l'aime beaucoup, je suis dedans, mais c'est quand même un dangereux psychopathe. Et c'est un assassin, et il franchit l'interdit en permanence. Et je rêverais un jour de travailler, enfin d'être, d'accompagner ou de devenir le personnage, si vous voulez, qui peut devenir assassin sans être responsable. Voilà, voilà des questions paradoxales, mais les romans, en règle générale, sont pleins de ces exemples-là. Pourquoi on peut ressentir certaines réactions en lisant mes romans, ou du moins en lisant celui-là, je ne le sais pas exactement. Ce que je crois, c'est que je pratique assez froidement l'évolution à l'intérieur du personnage, quoi, pour essayer de le mettre à jour.
Et justement, vous avez parlé du fait de vous identifier presque à votre personnage, et notamment avec la question du jeu.
Je prends le risque, oui.
Et donc, il y a effectivement cet aspect-là dans l'emploi du jeu, dans ce roman-là, mais dans quasiment tous vos romans. Mmh. Et il y a aussi le rapport que ça entretient avec le lecteur. Parce que finalement, quand vos personnages, ou quand un personnage comme Segers accomplit les actes qu'il accomplit, vous faites presque du lecteur son témoin, si ce n'est son complice.
Mmh. Mmh. Alors, il y a un trio... qui est celui du « on est parti après tout », puisque non pas par égocentrisme, mais de l'auteur, ce que je suis. Et puis, il y a à l'intérieur du livre celui qui raconte l'histoire. Jean Segers, c'est lui qui raconte. Mmh. Et effectivement, le livre ne peut exister que si on complète le triumvirat, qui est celui du lecteur, avec la présence du lecteur. Le lecteur ne peut se sentir complice, mais le lecteur peut aussi interpréter le texte et puis se précéder le texte ou l'anticiper ou parfois être un peu en retard par rapport au texte. Mais le lecteur ne peut pas être rendu responsable. Il peut, me semble-t-il, du moins c'est pas mon intention, il peut suivre l'histoire et essayer de comprendre les immenses contradictions mortifères dans lesquelles s'est installé ce psychopathe. Mais en même temps, on n'est pas au sein d'un hôpital psychiatrique. On est dans une région de France, voilà. Tout ce qu'il y a de plus provincial, de plus minimum, de plus, peut-être parfois, pas obligatoirement médiocre, mais quand même une vie rétrécie du point de vue des mentalités, ça c'est certain. D'ailleurs, il faut vraiment que sa femme revienne à 2h du matin pour qu'on se pose la question de savoir si elle a le droit ou pas. Enfin, il y a des tas d'endroits où quand même une femme peut rentrer à 2h du matin sans avoir à rendre des comptes ni à se justifier, quoi. On est quand même dans un contexte un peu de ce genre. Et je disais, on n'est pas dans un hôpital psychiatrique, bien entendu, mais on est dans un lieu de construction à partir d'une... c'est un lieu de vie, c'est un lieu économique, qui est d'ailleurs en faillite, et c'est vraiment le descriptif que j'ai utilisé, c'est-à-dire le fait que tout ceci se passe à l'intérieur d'un lieu clos qui est ouvert sur le monde, mais qui est lui-même clos, et qui est celui de la station-service avec tout son historique, si vous voulez. C'est-à-dire, il y a en même temps un bar, ça complète. Et vous savez, ça c'est, vous me dites si je vais un peu trop, un peu par des chemins de traverse, mais c'est des lieux qui sont un peu, qu'on a un peu perdus. J'en parle pas par nostalgie, c'est pas la question, mais les bars de nuit, non, ou plutôt les stations-service, se sont plutôt déshumanisées. Non pas au sens moral, mais parce que tout est automatique, on paye avec sa carte bancaire, on s'en va, voilà, c'est terminé. Donc les conditions sont plus les mêmes. Et là, vous avez des gens qui par exemple, ce couple, Segers et Remedios, ils habitent là, ils ont même acheté l'appartement qui fait partie de la station, ils sont là toute la nuit, ils ont un veilleur de nuit, il y a donc une vie sociale, il y a une... Et ça, c'est très marqué par une époque... qui précède, si vous voulez, comment est-ce que je peux dire, qui précède les grands chocs pétroliers qui ont fait que tout a basculé, comme en ce moment et aujourd'hui tout bascule parce que plus personne ne vous dit qu'il achète une voiture normale, il achète une voiture hybride. Si vous faites pas hybride aujourd'hui, c'est fini. Hein, vous ne pouvez rien faire. Et donc, c'est dans ce sens-là que je parle parfois un petit peu, est-ce que mon terme est un peu excessif, mais de dramaturgie de la station-service. Elle représente une période, elle représente un lieu de région confiné, et en même temps, ça représente une époque. Et je crois que j'ai puisé, par exemple, sans avoir à parler de soi comme ça, mais j'ai été veilleur de nuit, étudiant, dans une station-service, c'est-à-dire veilleur de nuit, plus la mécanique, plus ces petites choses-là, on rend service aux clients, on attend un pourboire, si on n'en a pas, on lui vole, enfin bref, tout est possible. Donc, je veux dire que c'est une période surannée, c'est un lieu même que je crois, j'ai pas cherché à l'actualiser, quoi.
Mais justement, sur la station-service, il y a deux choses. Vous parlez effectivement de côté déshumanisé, désincarné, et le choix d'avoir posé l'action dans une station-service, qui d'ailleurs, dont le lieu n'est pas spécifiquement indiqué. Il y a comme ça, c'est incertain, le lieu est incertain. La station-service ici, elle est presque une forme de non-lieu. Et après, effectivement, il y a une esthétique aussi de la station-service. Il y a un côté très cinématographique, dans presque dramatique de la station-service. Oui. Ça renforce l'ambiance de votre roman.
Oui. Alors, oui, enfin, c'est-à-dire que... je comprends ce que vous dites. C'est-à-dire que choisissant le cadre dans lequel les choses vont évoluer... il est certain qu'une ambiance se crée, que je le veuille ou non. Et à partir de là, on peut se rendre compte que tout se joue à l'intérieur de la station. De temps en temps, il y a une sortie vers peut y avoir une sortie comme ça, mais en règle générale, tout se passe à l'intérieur, dont le dénouement. Et il faut reconnaître que ce Jean Segers, il a tout mis de son côté pour que ce soit fréquenté par les personnes du monde judiciaire, par les pompiers, par les livreurs, enfin par les parents, les beaux-parents. Et tout ça, effectivement, comme vous le disiez, dans un cadre que je vais dire confiné, qui est un cadre très provincial, mais qui se complaît dans le provincial et qui refuse, je crois, le fait de pouvoir, d'être en mesure de s'ouvrir, quoi, aux autres. Et le lieu de la station-service est vraiment le lieu où les choses peuvent se déployer, où l'action peut se dérouler, quoi.
les lieux périphériques comme ça, ce sont des formes de lieux qu'on retrouve énormément dans votre œuvre. En quoi ça vous inspire particulièrement, ces lieux de périphérie?
C'est où je voulais en venir. Et c'est le fait que, par exemple, si vous vous promenez, enfin, ou si vous, ou si moi, ou si tout le monde se promène comme ça en France, chose qu'on ne fait pas en ce moment avec avec les conditions difficiles qu'on est tous en train d'aborder. On se promène comme ça, et puis c'est tout, les noms des villages. Je suis toujours surpris par la diversité, par le nombre d'individualités qui se déploient, parce que chaque nom est une histoire, il y a une diversification qui est assez extraordinaire. En fait, il y a une richesse. En fait, tout ça, c'est le terreau. C'est le terreau des aventures modernes, enfin contemporaines, quoi. C'est-à-dire qui ne se déroulent pas obligatoirement dans une grande ville avec un centre. Et puis si je prends n'importe quelle ville en France, et le fait est que comment est-ce que je peux dire j'en étais à penser que je suis toujours donc surpris par ces noms de villages complètement inconnus ou qui résonnent quand un drame surgit. Vous avez des affaires judiciaires qui sont des marques de la société, bien entendu, c'est à ce titre-là que je les retiens. Vous avez des affaires judiciaires dans des villages et caractérisées ne serait-ce que par une rivière ou, si je vous dis, au bord de la Vologne, à côté d'Épinal, enfin dans les Vosges, beaucoup d'entre nous vont noter que je suis en train de parler, d'aborder une affaire qui a défrayé la chronique et qui continuera à défrayer la chronique et qui marque donc cette région du saut du tragique aujourd'hui, bien entendu, qui est l'affaire Grégory, par exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des lieux faits pour. Ce sont des lieux dont on parle, faits pour, mais aussi présents, qui peuvent être facilement le cadre de tels événements, et sans aller chercher ailleurs. Et il y a à l'intérieur du roman l'inspectrice des assurances. Elle est inspectrice pour les assurances. Elle parle, des lieux un petit peu locaux, comme ça. Elle s'investit dans la recherche et dans l'enquête qu'elle doit mener, qui ne facilite pas l'existence de mon narrateur, hein, ça c'est certain. Voilà ce que je veux dire.
Et justement, ces lieux, ces périphéries, ça met aussi vos personnages directement à la marge. Et dans Adultère, cette marche, elle est, à mon sens, géographique par le lieu de la situation de la station-service. Elle est aussi sociale, puisqu'il est question de précarité sociale à travers la situation de la faillite de l'entreprise de Jean Segers, à travers aussi la situation de Ousmane, qui lui réclame ses indemnités parce que c'est pour la survie de sa famille, tout simplement. Et ouais. Je me demandais, on y reviendra sur le fait de dire que vos romans sont des romans noirs, mais est-ce que pour vous, l'écriture de vos romans dits noirs doit se baser sur une réalité sociale elle-même assez sombre ?
C'est-à-dire que je n'assigne pas au roman une fonction particulière au moment. Je n'ai pas de instinctivement comme ça. Je n'ai pas de projet de démonstration. C'est-à-dire je ne dois rien prouver. Je ne milite pour aucune cause, si on veut. Et en même temps, je n'ai pas à superposer à l'intrigue des intentions qui seraient aussi, après largement aussi, qui peuvent être politiques, qui peuvent être morales, enfin, etc. Et je n'ai pas démontré. Mais en même temps, il est certain que dans mes intentions, qui sont celles d'écrire des personnages qui agissent les uns avec les autres, dans un milieu clos et donné, par automatisme, nous abordons des histoires de catégories. Je pense qu'il y a une différence, bien entendu, entre le jeune mécanicien qui est très sérieux, qui s'occupe de sa famille, etc., qui manifestement a un nom qui est celui né de l'immigration et de l'insertion. Enfin, voilà, dès que j'ai mis ces choses-là en place, les choses fonctionnent, mais moi je les mets en place parce que c'est la façon réaliste de les montrer. Et si vous voulez, prenons une station-service, donc une entreprise en difficulté dans une petite ville de province, et puis mettez là-dessus les risques de faillite, l'évolution de la société, le fait qu'on ne s'arrête plus beaucoup dans les stations-service, on va plutôt se servir dans les supermarchés où c'est 3 centimes moins cher, donc ça vaut le coup. Ajoutons à cela un tribunal de commerce, ajoutons à cela le président du tribunal de commerce qui, lui, a une fonction automatiquement extrêmement, non pas privilégiée, mais de rétablissement ou d'établissement de la justice dans des cas de faillite civile ou financière, etc. Vous êtes automatiquement dans un brassage. Et c'est vrai que ça m'intéresse. Mais en même temps, par exemple, alors je voudrais dire que de ma façon de travailler, par exemple, ce président du tribunal de commerce, il peut être soupçonné par le narrateur d'éventuellement tromper avec sa femme. Bon, le schéma est là. Mais automatiquement, si vous voulez, il donne une coloration, il caractérise et il m'apparaît comme nécessaire. Par exemple, le narrateur va le voir. Eh bien, il se peut que j'écrive 2 pages de description de son bureau, de ce président, de ses habitudes. Je le sens d'une certaine manière. Et puis, finalement, je supprime une partie de l'ensemble parce que sa fonction seule suffit. À un moment donné, il est dans le cours du roman en train de jouer aux cartes, donc certainement au poker, enfin voilà, avec des jetons de couleur, enfin etc. Donc il y a un rapport avec l'argent, il y a un rapport avec le jeu, et il y a un rapport avec la bande organisée. Il y a quelque chose qui fait que cet homme peut évoluer. Vous parliez du roman noir, mais dans un cadre policier, peut évoluer vers le banditisme, par exemple. On peut le sentir, ça, on peut se le dire.
Tout à fait.
Mais je ne m'y résous pas. Alors, si c'était ça les questions, je ne me résous pas à la résolution policière du roman. Ouais. C'est ça qui me... Je ne peux pas m'y résoudre. Pour ça que je ne... Oui, pardon.
Non, mais on est tout à fait. C'est justement sur cette question du roman noir. Vous êtes souvent, votre travail est souvent affilié à celui de Simenon ou de Manchette. Est-ce que vous revendiquez cet héritage? Comment vous vous placez par rapport à cette dénomination du roman noir?
C'est-à-dire que le roman noir, on va dire, je ferai la distinction entre roman noir et roman policier.
Tout à fait.
C'est-à-dire roman policier, voilà, Manchette, ça c'est vrai, mais justement, je pense à Chandler aux États-Unis, par exemple, voilà. La distinction à établir, c'est que un roman qui présente une intrigue avec éventuellement une résolution de l'intrigue ou pas, propose quand même un schéma dans lequel intervient l'idée du crime, et si ce n'est pas du crime, de l'acte délictueux. Mais celui-ci, on peut y ajouter, si vous voulez, le fait que c'est vu du point de vue, toujours, d'une certaine morale qui sera celle qu'on va dénouer par rapport à l'idée de police. Dans ce roman-là, par exemple, il n'y a pas de policiers, il y a des gendarmes. Les gendarmes, ils représentent la notion, à mon sens, du territoire, puisque on a parlé de provinces confinées. On peut ressentir, si vous voulez, que tout se joue sur un plan où le policier en soi, l'idée du policier n'est pas complètement, ne mène pas complètement le jeu. Et j'ai eu le sentiment, en écrivant Adultère, que j'étais dans une phase de réflexion, pour ma part, par rapport au protagoniste, mais sur le plan du sentiment. Et j'ai l'impression d'avoir écrit une chronique qui serait plutôt une chronique familiale, plutôt qu'une chronique judiciaire. Mais pour que le familial puisse s'intégrer dans nos codes de compréhension aussi, et puis dans une histoire qu'il faut bien, qui peut être éventuellement intéressante, parce que ça peut être intéressant de voir comment on passe d'un monde à l'autre, de l'honnêteté au meurtre, enfin ces choses-là. Et ce que je veux dire, c'est que il y a la nécessité de l'intrigue policière, mais ce n'est pas elle qui conduit. Le sentiment que j'ai, donc j'y reviens, c'est d'avoir écrit une chronique familiale avec toutes les contradictions, tous les mystères, tous les non-dits, parce que c'est vrai que rien ne se résout de manière définitive. Et bien entendu, il y a la dernière page, la dernière partie où, qui relance enfin, quelque chose qui fait que ça ne se termine pas comme d'habitude. Ça devrait se terminer. Je reste avec des personnages qui sont, à mon sens, des protagonistes sociaux, des êtres sociaux qui sont définis de manière très claire et très nette, mais qui ne sont pas parvenus à résoudre leurs propres contradictions, leurs contradictions. Voilà.
Justement, dans vos livres et dans ce livre-là aussi très particulièrement, les crimes relatés sont rarement des crimes d'intérêt, ce sont des crimes finalement passionnels qui oui. naissent du sentiment humain. En tant qu'auteur, vous pensez que c'est de l'intime que naît le tragique ?
Ben, je suis certain qu'il faut que le tragique, quand il apparaît au terme d'une évolution souterraine et nerveuse, si vous voulez. Je parle de l'organisme, quoi, avec les pulsions, avec les. Il faut qu'il y ait eu quantité d'événements qui croisent à ce moment-là le social, le politique, s'il faut, quand c'est le cas, les mentalités, la morale. Et c'est progressivement, à force de démarches qui mettent en valeur la difficulté d'exister, que la notion de tragique va arriver, parce que les personnages prennent rarement, et je crois dans la réalité aussi, dans les affaires personnelles, de couple, d'associations quelconques, etc., même de relations professionnelles, etc., on ne prend pas toujours les bonnes mesures, les mesures adéquates, c'est-à-dire pacifiques, amicales, qui produisent des relations saines, mais on va au contraire dans un endroit où peut naître le tragique. Et c'est quoi le tragique sinon le cataclysme, quoi, que représente une situation où on n'a pas d'autre choix que de courir vers son propre malheur. Voilà, c'est comme ça que je l'entends.
À travers
pas policier. Pardon, excusez-moi.
Je vous en prie. À travers votre écriture, justement, qui est assez blanche, assez sèche, parfois un peu factuelle, on pourrait croire à une forme de distance de votre part face aux personnages et à ce qu'ils ressentent, subissent ou font subir. Mais finalement, c'est un faux semblant de votre part, non ?
Eh bien, c'est une nécessité. Écrire le roman, c'est quand même décider une fois pour toutes d'être que quand on est lu, on peut être au moins compris et au moins on peut être lu dans des conditions où l'auteur a mis les moyens pour que la personne qui lit, la lectrice ou le lecteur, puisse quand même être dans de bonnes conditions pour participer, pour lire. Lire, c'est aussi ça, c'est participer, etc. Bien sûr. Mais bien entendu, je crois que pour parvenir à cela, il faut quand même prendre du recul par rapport à l'histoire elle-même. Si on se laisse soi-même auteur, en tant qu'auteur, embarqué dans les phénomènes sentimentaux, d'action, parental, etc., etc., familial surtout, ça y est, d'un seul coup, on est pris. De la même manière qu'un peu peut-être le médecin, à un moment donné, quand il donne une thérapie, enfin quand il porte un diagnostic, et que ce soit n'importe quel diagnostic, je pense qu'il est obligé d'agir avec une, par rapport au protagoniste, il est obligé, enfin, à la personne malade par exemple, il lui est possible d'agir, il est obligatoirement, il agit en étant le plus respectueux possible de l'individu, le plus éloigné possible. Et c'est quand on a du recul qu'on est capable de décrire une situation. Et moi, si je suis embarqué dedans, il ne faut pas que je puisse me retourner et me rendre compte qu'il y a des choses que j'ai oubliées, etc. Donc je dois froidement me laisser emporter par le sentiment, parce qu'il existe et je suis investi, et finalement c'est quand même bien moi qui ai monté toute cette histoire. Mais je dois le faire avec une... effectivement, je le ressens ça très fortement avec la distance nécessaire qui n'est pas obligatoirement la froideur, mais qui peut être aussi de la froideur. Et c'est à l'endroit où le sentiment apparaît, et qu'il par les interstices du texte, que mon travail consiste à laisser apparaître ces sentiments et de temps en temps de me laisser moi-même embarquer, mais de manière très... sur quelques phrases, ou sur un seul mot, ou sur une seule expression, ou sur le ton d'un personnage. Essayer d'accepter d'être investi soi-même dans une histoire qui peut, je reprendrai votre terme, conduire à la tragédie, quoi. Donc, c'est un travail très difficile. Je crois que c'est un travail qui met, enfin, que je ressens, moi, difficile, mais qui met en jeu, si vous voulez, l'approche, la dignité du personnage dont on parle, son existence, mais qui met aussi en jeu, puisque nous sommes dans l'écriture, qui met en jeu la grammaire, puisque c'est par la grammaire, par la coordination des... qui fixe le sens, sans ambiguïté. Et j'ai ce sentiment que s'il y a de l'ambiguïté, c'est parce qu'elle est nécessaire et qu'elle nourrit le texte. Et si le moment où je n'ai pas d'ambiguïté du tout et où les choses sont extrêmement simplement décrites, c'est parce qu'il est nécessaire de pointer des choses très concrètes, de telle sorte que la personne qui décode, enfin qui lit, puisse se sentir correctement, d'un autre côté, relativement respectée, quoi. Voilà.
Justement, dans un entretien précédent, vous avez fait cette déclaration. Je n'écris pas d'idées, je décris des actes.
Eh bien, pour pas me tromper, et après, alors je me rends compte que tout le monde ne parle après plus que des idées. Mmh. Ça, c'est étonnant. Mais je suis persuadé depuis le début où j'écris que nous définissons non pas par ce que nous disons, ça c'est toujours possible d'avoir des doubles langages, des arrière-pensées, des feintes linguistiques qui permettent de cacher ce qu'on est en train de dire. Je pense qu'on existe à partir du moment où on est observé dans ses gestes. Non pas espionner quelqu'un pour voir son tic et tout, mais un geste de la main, un pas en avant, un pas en arrière, un rétrécissement d'une démarche, parfois un regard, un seul regard, à quel moment un sillement des yeux permet de déterminer, de comprendre quelque chose. Je pourrais, par exemple, dire on va dénoncer le coupable uniquement parce qu'à ce moment-là, il a tourné la tête. Et s'il n'avait pas tourné la tête, etc. Dans le roman précédent, dans Pas dupe, j'ai un inspecteur qui est un peu chercheur d'ennui, enfin c'est vraiment le pire du pire, lui, il arrive à sentir qu'à un moment donné, il va pouvoir piéger son celui qu'il piste, quoi, en définitive, rien que par la compréhension de son comportement. C'est pourquoi je dis que je peux toujours dire « je suis innocent mais », mais non, puisque j'apporte la preuve matérielle et nette que ce n'est pas moi. Puisque ce jour-là, par exemple, j'étais à tel endroit, etc. Mais ça, c'est égal. Ce qui intéresse, à mon avis, le policier, de toute façon, qui mène une enquête, mais, et puis ce qui intéresse donc celui qui écrit l'histoire, c'est le détail. La petite chose qui ne vous trahit pas obligatoirement, mais qui vous confond et qui vous caractérise. Voilà. C'est pourquoi... Quand je dis pas, je ne raconte pas, je n'écris pas pour démontrer des idées, mais je suis des actes. Le seul moyen que j'ai, c'est de suivre effectivement pas à pas. Segers, par exemple, étant donné que je l'habite, eh bien, je fais avec lui tous les trajets, les allers-retours dans la station, le garage, les voitures à côté, les camions, le bar, les souvenirs, etc. Tout le temps, je dis, mais si toi, tu étais là dans cette condition en train de, je sais pas, de perpétrer cet acte, par exemple, comment toi tu ferais? Et si toi, tu traverses une salle où il y a des choses de mécanique exposées, etc., que tu dois les éviter, les décrire, les voir, comment est-ce que tu fais si il y a une tache d'huile et puis que tu dois glisser? Comment est-ce que toi, tu fais? Et je le fais et je l'écris, voilà. C'est ça, les actes.
Justement, dans votre obsession des actes et du factuel, est-ce qu'on ne pourrait pas y déceler une obsession du fait divers aussi?
Alors, le fait divers retient mon attention dans la mesure où si j'ouvre une page de journal ou un écran d'information, tous les événements m'intéressent et je les mets tous sur le même plan. Donc, il peut se passer quelque chose avec le nouveau président des États-Unis et puis le dernier des derniers dans un coin de France, dans une sorte d'acte qui va devenir un fait divers. Je les mets sur le même plan. Bien sûr, ne confondons pas les raisons sociologiques de la différence. D'accord. Mais le fait est que le fait divers... Je suis arrivé à décomposer dans ce roman-là, enfin à y réfléchir. Si vous voulez, les personnages qui sont dans le roman vivent une chose qui est interne, qui est intérieure au groupe et qui est leur façon de vivre, d'échanger. À un moment donné, il y a un drame, une tragédie, et à ce moment-là, le fait divers vécu de l'intérieur peut devenir un article de journal extérieur. Et les choses changent automatiquement, le regard change automatiquement. À l'endroit du passionnel, c'est-à-dire un homme peut-être ou une femme qui aime son conjoint et puis voilà, il y a trouble, etc., et on passe à l'acte, ceci est entendu de manière... Il faut pouvoir le fouiller à l'intérieur de l'histoire, mais à l'intérieur du couple hein, ou à l'intérieur de la cellule familiale ou de la cellule professionnelle. Et le fait divers, il est extérieur. Lui, il va raconter en essayant de se retrouver, de décrire les situations, de comprendre quelque chose, alors que parfois, il n'y a même rien à comprendre du tout, quoi. Il y a deux faits divers, quoi. Le premier à l'intérieur et celui de l'extérieur, du journal.
Il y a, à propos de adultère et de la vie de Segers, il y a plusieurs articles qui ont fait référence aux vies de ce personnage et d'autres de vos personnages, comme, je cite, « une vie de rien et même des vies minuscules », en référence à Pierre Michon. Est-ce que vous souscrivez à ces dénominations de vie de rien ou de vie minuscule pour vos personnages?
Ben, je rejoins le... Je reviens sur ce que nous avons dit tout à l'heure, si vous voulez, c'est le. Je parle de province confinée, mais je n'y vois pas de. C'est pas glorieux. J'ai pas envie de les mettre sur un piédestal et puis de dire, voyez, un type qui travaillait dans une station, enfin qui tenait une station-service ou qui en était le gérant au moins, vivait dans telles conditions et puis que je le décrive. J'ai même pas cette prétention. C'est-à-dire que pour ce qui est de ce que j'ai à écrire au moment où je le fais, mon souci est effectivement d'entrer à l'intérieur et de laisser le mécanisme des gestes se mettre à jour. Et je comprends qu'après, de l'extérieur, on puisse effectivement considérer... Mais je n'ai pas envie de chanter la province. Voilà. C'est vrai, voilà.
Donc, on a parlé à plusieurs reprises, effectivement, de se mettre à l'intérieur des personnages, mais effectivement, vous vous affranchissez quand même d'une certaine forme de psychologie dans l'écriture, dans la narration. Et on en a parlé justement tout à l'heure sur la forme de l'ambiguïté que vous laissez là-dedans. Finalement, vous suscitez chez le lecteur un besoin d'interprétation.
C'est-à-dire que le personnage, effectivement, il a une psychologie, mais je ne peux pas l'aborder avec les codes de la psychologie, dès lors avec les codes traditionnels qui sont, ceux de la psychologie. C'est-à-dire que moi, je répète, je me mets à l'intérieur du personnage et puis je ne donne pas de justification, du moins ce que le personnage tente de faire. Agit, à quel endroit il agit et réagit, c'est vraiment, j'ai le sentiment en réalité que c'est son affaire et que je n'ai pas à l'expliquer. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment il agit et ce que ça veut dire, ce que ça veut pouvoir signifier, ce que tel ou tel geste peut pouvoir signifier. Et c'est vrai que ça fait un appel chez le lecteur d'une nécessité. De la même façon qu'il y a nécessité de la résolution policière, nécessité de la résolution humaine. C'est-à-dire, il est comment, il fait comment, mais pourquoi est-ce qu'il pense ça, etc. Et puis pourquoi, où est-ce qu'il veut en venir, mais qu'est-ce qu'il motive, etc. Et où il veut en venir, tout ce qu'il motive, ce sont en périphérie du personnage des tas de choses qui sont présentes et qui le déterminent, voire le surdéterminent. Et donc... ce que je souhaite, si vous voulez, c'est qu'il apparaisse comme ça, comme celui... ce que je souhaite, ce que ça produit, moi, le fait de pas de perdre... C'est-à-dire, ça pose un peu la question de savoir si on écrit pour décrire des réactions ou bien pour donner plus de chair à un personnage. Et quand on décrit les réactions, on rentre dans un traditionnel mouvement de rhétorique du roman. Qui est souvent peut-être un peu répétitif, si vous voulez, enfin, mon sens, quoi. Et donc, je pense que finalement, autant balayer ça, autant le balayer, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas présent. Je pense qu'il y a même, au moins chez mon personnage, par exemple, Jean Segers, qu'il y a au moins beaucoup de sentiments, beaucoup d'analyse de situation, et finalement, c'est quelqu'un qui pratique une forme de monologue, quoi. Il s'enferme dans une situation. Et je crois que l'intérêt pour le lecteur, c'est plutôt le fait d'essayer de s'approcher du personnage et d'essayer, pas obligatoirement de le comprendre, mais ni de le justifier, évidemment, mais d'en être proche, quoi. D'en être proche.
Justement, sur ce point précis, dans ce rapport du lecteur au personnage, je me demande dans quelle mesure le choix des noms que vous donnez au personnage n'est pas un jeu avec le lecteur. Je pense, évidemment, on a ici, dans Adultère, on a donc Xavier Walden, on a Salazar, le nouveau compagnon de la mère de Segers. Et je pense aussi, dans Pas dupe, on a Tipeee. Je pense encore un précédent roman, je pense à Marcello Martini. Je pense aussi à Vicky Novak. Enfin, voilà, tous ces noms de personnages très particuliers qui sont des références évidentes ou moins évidentes. Est-ce que c'est votre façon d'instaurer aussi un jeu, de distiller des indices pour le lecteur?
Alors, si alors ce que j'aurais voulu dans la suite, mais je reste là, je note ce que vous me dites. J'aurais voulu dire simplement que je me résous pas, moi, à la dernière page, si vous voulez, du point de vue des sentiments et des codes de la psychologie. Je ne peux pas me résoudre au sentiment que je vais lâcher le lecteur là, si vous voulez, dans la dernière page. Celle que j'ai mis, enfin bon, là je crois que je suis resté 2 mois sur une page. Sur cette page-là, il a fallu que j'ai éprouvé la nécessité, si vous voulez, de transformer les données en utilisant le texte et pour ouvrir une perspective au lecteur en définitive. Et donc je reviens étant sur les prénoms et les noms. Écoutez, j'essaie de trouver le moyen de. Par exemple, il y a le grand mystère, là on me dit. Comment ça peut correspondre à quelque chose, ce beau-père là, donc qui vit avec la mère. Alors déjà le narrateur, il vit avec sa mère. Bon, il vit proche de sa mère, pas loin, géographiquement, mais très proche affectivement, bien qu'il ne l'explique pas non plus ça, mais qu'il rentre chez sa mère, qu'il ait la clé, ça signifie plein de choses. Voilà, c'est pas la peine de, j'évite à ce moment-là de le dire. C'est-à-dire, j'évite à ce moment-là, je reviens sur la question de la psychologie, je reviens sur le fait qu'il ne dit pas, par exemple, j'ai la clé parce que je tiens toujours à être proche de ma mère, et pour moi, cette clé symbolise le rapport affectif et toute mon enfance. Non, il faut l'ôter, ça. Il a une clé, ça veut tout dire, c'est suffisant. Et je veux, moi, que le lecteur, il comprenne ça. Et d'ailleurs, il le comprend très bien, j'en suis sûr. Et donc, ce que je veux dire, alors... Par exemple, il est avec sa maman. Sa maman, alors, c'est évident qu'il ne va pas pouvoir supporter ce type qui arrive. Et ce type, c'est un peu... Écoutez, je le décris à peine physiquement, parce que je trouve que ça vaut le coup de lui mettre quelques habits. Il dit, on va parler franchement et entre guillemets, il ne dit que des conneries, hein, des évidences. Évidemment, puisqu'il est en retraite, il est content de ce qu'il a fait avant quand il était au travail. Évidemment, il a une bonne retraite. Ces genres d'imbéciles qui viennent, qui vous causent, qui vous ennuient. Et j'ai trouvé que ça valait le coup de l'appeler comme un... Alors vous avez comme un héritage, parce que j'ai toujours cette idée avec le Portugal d'une sorte de refuge où, enfin, il y a deux données comme ça. Après, moi, je veux pas, mais simplement un beau lieu de vacances magnifique pour des personnes qui atteignent le moment de la retraite, qui souhaitent habiter au Portugal parce qu'ils ont moins de Il y a tout ce condensé. Ils ont moins de difficultés financières qu'en France, parce que la vie est moins chère. Je veux dire par là que c'est peut-être une raison. Et puis, il y a aussi l'idée du Portugal, c'est-à-dire qui, au moment, sous la présidence de Salazar, par exemple, mais il y a eu une immigration portugaise très importante, avec des gens d'une grande valeur qui se sont mis à travailler en France, etc. Et ces gens, ça appartient à une certaine époque. Et je l'imagine bien, et ce Salazar, j'y lui ajoute un E, parce qu'il y a aussi, on s'interroge des fois pourquoi j'ai ajouté un E, ça c'est le travail de l'écriture, quoi. C'est-à-dire pourquoi il s'appelle Salazar, mais tous les prénoms, tous les noms propres ne s'écrivent pas de la même façon, c'est tout. Donc j'ajoute un E, ça ne le féminise pas, ça ne le masculinise, enfin, ça ne le rend pas masculin plus, ou ni féminin, mais je le mets, voilà. Donc parce qu'un personnage doit être décrit avec ses mots. Il doit être décrit avec des mots, avec de la grammaire, avec de la couleur, avec de la entre parenthèses, son nom. Le nom chez quelqu'un est vraiment primordial. C'est ce qui doit vous ouvrir le territoire d'un individu, en principe. Et souvent, ce nom... Alors, parfois, voilà, ce qui pose question, c'est que des fois, le nom n'a strictement rien à voir avec la personne, quoi. On se demande pourquoi. Des fois, on s'interroge. J'ai pas d'exemple direct sous la main, mais c'est souvent ça. Et je sais que ça va être extrêmement précieux et qu'il faut lui donner de l'importance. Mais je ne peux commencer, j'attendrai un mois, 2 mois, 3 mois avant de débuter un roman, si je n'ai pas le nom de la personne exacte, quoi. Mais on est surpris par, des fois vous rencontrez dans la rue, ou des gens qui vous interpellent, ou des amis inconnus qui se présentent, etc. Et d'un seul coup, quelqu'un qui vous balance un prénom, vous êtes émerveillé, ou bien alors vous êtes complètement déstabilisé, ben, mais comment il fait pour s'appeler comme ça ? Que c'est pas possible, quoi. Ou alors, c'est trop proche, enfin, je crois qu'on donne beaucoup de valeur au nom. Mm-hmm. D'ailleurs, une seule intonation, et ça y est, c'est parti. Une seule, ça nous centre sur telle ou telle nationalité, telle ou telle région, tel ou tel accent, tel ou tel. Donc, ce personnage de Salazar, c'est quand même 4 syllabes, les unes derrière les autres. Je pense que là-dessus, le personnage Jean Segers, il met toute sa jalousie vis-à-vis de sa mère, voilà, vis-à-vis de celui qui lui vole sa mère. Et j'ai écrit une version où Salazar intervient et tout, puis finalement, je me suis dit, ça vaut pas la peine. Quand je dis que Segers le prend pour un, enfin, de manière détournée pour quelqu'un de minimum, je crois que c'est sa façon à lui de d'écrire ça. Sa rancœur vis-à-vis de cet homme. Donc, voilà.
Justement, là, vous parlez au niveau de l'écriture sur la précision, sur le E de Salazar, sur l'importance de la grammaire, etc. Et dans un entretien, vous dites ne pas vous qualifier d'écrivain, mais d'auteur. Pourquoi vous faites cette dissociation entre ces deux termes ?
Ben parce que je me sens plus responsable si je suis auteur. Parce que cela scelle de manière avec ce mot de vocabulaire, cela scelle et officialise l'engagement que j'ai pris de mon écriture ou la responsabilité de mon écriture. Je le sens comme ça, quoi. C'est-à-dire que j'en suis l'auteur, c'est indéniable, et j'en prends la responsabilité. J'ai pas écrit moi un roman pour faire plaisir, pour amuser le monde, ou bien pour rentrer dans un phénomène d'explication psychologique d'un événement social, etc. Et par contre, écrivain, ben, il suffit de l'avoir écrit, si vous voulez. Et ça veut dire, je trouve ce mot trop long, je le trouve trop lourd aussi, et je le trouve un peu traditionnel. J'aime mieux dire auteur auteur, tout simplement. Mais peut-être que certains de nos contemporains, enfin, sont plus écrivains que moi. Hein. Là-dessus, je cherche pas spécialement de, mais je préfère le mot auteur, quoi.
Très bien.
Voilà.
Mais écoutez, Yves Ravet, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup pour ce livre Adultère, donc paru aux éditions de Minuit. Et merci pour cet entretien.
C'est moi qui vous remercie.